Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, journée mondiale contre l'homophobie. À cette occasion, je reçois l'ancien footballeur Wissem Belkacem, l'un des premiers en France dans sa discipline sportive à avoir publiquement révélé son homosexualité. Bonjour Wissem Belkacem.
Bonjour.
Vous publiez « Adieu ma honte » aux éditions Fayard. C'est un livre dans lequel vous révélez votre homosexualité. Comment vous avez vécu surtout toutes ces années de passion pour le foot, un sport fondamentalement homophobe. Les voisins et les voisines, bien sûr, vous pouvez nous appeler pour poser toutes vos questions. C'est très simple, notre compte WhatsApp, c'est toujours le même. 33 7 64 45 51 41. Selon les Nations Unies, des violences à l'égard des personnes LGBT sont signalées dans toutes les régions du monde, qu'il s'agisse d'agressions physiques, verbales, de tortures, d'enlèvements, encore d'assassinats ciblés. Alors les droits, c'est vrai, progressent dans certains pays, mais l'orientation sexuelle reste encore largement tabou au sein des sociétés et le quotidien des personnes homosexuelles ou transgenres est souvent compliqué. On entendra aussi notre correspondant à Libreville au Gabon, Yves-Laurent Goma, où justement le Gabon, la dépénalisation de l'homosexualité a été votée en juin 2020. On fera le point presque un an après.
7 milliards de voisins.
Ouais. 7 milliards de voisins.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins sur RFI. Nous donnons tout de suite la parole à Omar Didi, qui est président du MAG Jeunes LGBT, mouvement d'affirmation des jeunes lesbiennes, gays, bi et trans. Bonjour Omar Didi.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes co-organisateur de cette première conférence mondiale sur la promotion des droits et inclusion des jeunes LGBT qui se tient aujourd'hui en cette journée mondiale de lutte contre l'homophobie. LGBT, lesbienne, gay, bisexuel, trans et intersexe, hein, si on rajoute le I, qui désigne donc des personnes non hétérosexuelles, je le dis pour nos auditeurs, parce que c'est toujours bien d'indiquer ce que veulent dire les sigles. Lors de cette conférence, vous souhaitez vraiment mettre l'accent sur les jeunes. Pourquoi, Omar Didi ?
Alors, il faut se dire que les jeunes font partie d'une population extrêmement vulnérable. Et c'est par ailleurs ce qu'on voit avec la crise sanitaire. La crise sanitaire a aggravé la situation des jeunes dans le monde. Et à la population LGBT de manière générale, et également une population qui est vulnérable. Si on ajoute les deux facteurs, être jeune et être LGBT, on arrive dans une des populations les plus vulnérables et qui ne doivent pas être oubliées dans le cadre de l'agenda 2030 du développement durable.
C'est la double peine. Quel est l'impact sur la scolarité pour ces jeunes d'appartenir à ces groupes LGBT ?
L'impact est très négatif sur la scolarité. Plusieurs enquêtes ont mis ça en avant, notamment des enquêtes qui ont été réalisées par l'UNESCO et une dernière enquête qui avait été réalisée par le MAG Jeunes LGBT et l'UNESCO qui montrait que un jeune LGBT sur deux a vécu de l'harcèlement scolaire en 2018 en France. Si on prend la proportion à l'échelle mondiale, on est à bien plus du 1 sur 2. Et on voit très bien que les jeunes, d'un point de vue de leur éducation, on va avoir non seulement un décrochage scolaire, mais aussi d'autres effets négatifs, d'autres effets dramatiques qui peuvent aller jusqu'au suicide.
Ces jeunes sont victimes de harcèlement beaucoup plus que la moyenne des jeunes. C'est 1 sur 10 en France. Là, on voit que c'est 1 sur 2. Au niveau de l'Union européenne, 41% des jeunes LGBT déclarent cacher leur homosexualité à l'école. On voit bien que ce sont des conditions extrêmement difficiles. Vous le disiez, ça favorise le décrochage scolaire parce qu'ils sont victimes de violences verbales, physiques. Au niveau familial, où est-ce qu'on en est ?
Au niveau familial, la situation est tout aussi dramatique. Et on a notamment pu travailler plus sur cette question-là et la mettre beaucoup plus en lumière lors du premier confinement. À la fin du premier confinement, une étude du Défenseur des droits a été publiée et a montré que les jeunes enfants, qu'elles soient filles ou que ce soit des personnes LGBT, sont ceux qui sont le plus victimes de violences intrafamiliales. Et c'est là où, contrairement au sujet lié au racisme, contrairement à un sujet qui est lié à la famille, entre guillemets, quand on est une personne LGBT, on ne peut pas revenir chez sa famille et penser que potentiellement sa famille va nous accepter. Et c'est là d'où vient le mot « coming out », le fait de révéler, entre guillemets, son orientation sexuelle ou son identité de genre, si on fait partie de cette minorité-là, auprès de sa famille. Et les situations peuvent être dramatiques.
Il y a encore en France des adolescents qui sont sont mis à la rue par leurs parents parce qu'ils annoncent qu'ils sont, par exemple, homosexuels.
Effectivement.
Quelle serait pour vous, Omar Didi, une société inclusive des jeunes LGBT? Qu'est-ce que vous demandez au pouvoir public?
Alors, nous, ce qu'on demande, c'est notamment, d'un point de vue de l'éducation, de créer des vrais programmes inclusifs des jeunes LGBT. Quand on dit inclusif des jeunes LGBT, on ne se limite pas à une minorité ou à des communautés en particulier. Le fait que tout le monde, toute personne à l'école puisse avoir accès à son droit essentiel, son droit fondamental à une éducation inclusive, permet de construire des sociétés plus fortes, des sociétés économiquement viables et des sociétés durables. Si on laisse une personne derrière dans la société et des personnes derrière, dans ce cas-là, des jeunes LGBT, donc ce qu'on demande, c'est des programmes inclusifs. Et quand on dit des programmes inclusifs,
mais
c'est autant
plus concrètement, qu'est-ce que c'est plus concrètement? Alors oui, protéger les jeunes en milieu scolaire, hein, des violences et de l'homophobie, par exemple. Hein, mais sinon, dans la ville, dans les milieux dans lesquels ils évoluent ensuite.
Alors là, il y a beaucoup de politiques publiques à mettre en place d'un point de vue de la ville. Le fait de construire une ville sûre pour les jeunes LGBT, c'est le fait d'avoir des espaces qui permettent aux jeunes LGBT de pouvoir sortir de l'isolement et de pouvoir affirmer leur orientation sexuelle et leur identité de genre. C'est également former les polices municipales, si c'est le cas de villes qui en disposent, pour que cette police-là puisse aider et accompagner les personnes LGBT.
Écoutez les victimes lorsqu'elles sont victimes d'homophobie.
Oui, entièrement. En tant que jeune LGBT, le premier endroit où on va se faire discriminer, c'est au sein de la ville. Donc c'est au sein de la ville qu'on va se tourner. Et dans le cadre de cette conférence-là, nous avons d'excellentes personnes qui vont y participer, des maires, notamment le maire de Ouagadougou, mais également la maire de Foumban, au Cameroun.
Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous, Omar Didi. Un événement dont France Média Monde est partenaire et à retrouver sur Internet, le lien sur notre page 7 milliards de voisins, sur le site rfi.fr. Omar Didi, vous êtes le co-organisateur de cette première conférence mondiale sur la promotion des droits et inclusion des jeunes LGBT. Très bonne journée à vous, Omar Didi, en cette journée mondiale de lutte contre l'homophobie.
Merci beaucoup, Emmanuel Bastide. À très vite.
7 milliards de voisins.
On existe ensemble.
Wissem Belgacem, et vous, qu'est-ce qui vous a décidé à écrire ce livre, à raconter, à révéler votre orientation sexuelle?
Ce qui m'a poussé à écrire ce livre, c'est réaliser que les choses n'avançaient pas ou trop peu. C'est-à-dire que j'ai beaucoup souffert de l'homophobie quand j'étais joueur de football. Et il y a quelques années, quand j'ai remonté du coup une structure où je me suis remis à travailler avec des footballeurs et que j'ai réalisé que le niveau d'homophobie n'avait pas baissé d'un sou, c'est là où je me suis dit « bon ben là, il faut vraiment parler dans l'espoir de faire avancer les choses ».
Vous êtes l'un des premiers dans le foot en France, contrairement à d'autres sports.
C'est ça, ouais. C'est je pense que beaucoup de sports ont un problème avec l'homophobie, mais le foot particulièrement.
Ouais, parce qu'il y a le patineur Guillaume Cizeron qui publie un livre pour raconter son coming out. Dans le foot, il y a eu un ex-international allemand qui avait révélé son homosexualité il y a quelques années. Vous écrivez « Là où je suis né, dans les Bouches-du-Rhône, le foot n'est pas un sport, mais une religion. Dieu, c'est l'Olympique de Marseille. » Le foot, pour vous, ça a été une passion dès l'enfance?
C'est ça. C'est-à-dire que personne ne m'a jamais forcé à jouer au football. J'ai joué avec des footballeurs, enfin dans ma cité, des gens qui étaient passionnés. Puis voilà, la passion est née. J'ai réalisé que j'étais pas trop mauvais, donc forcément ça donnait envie de continuer. Et puis j'ai rapidement compris que du coup il y a une telle ferveur autour du football dans ma région qu'en étant bon, on pouvait gagner l'amour, l'admiration et le respect de tout le monde.
Oui. Alors vous êtes bon à l'école, très bon en foot, très vite repéré, tout allait bien ou presque.
Voilà, c'est-à-dire qu'il fallait bien une ombre au tableau, hein. Mais oui, tout allait bien, mais je réalisais aussi dès 8 ans que j'avais des pensées envers les garçons. Et dès 8 ans, j'entendais de tels discours autour de moi que, bien qu'enfant, je pouvais en conclure que c'était pas bien ce que je pensais et ce que je réalisais que j'étais.
Ça veut dire que dès 8 ans, vous savez que vous êtes différent, que dans votre vie, il y a le foot et ce sentiment permanent d'être différent?
C'est ça, c'est-à-dire que dès 8 ans, voilà, le foot va prendre une énorme place dans ma vie, ça va devenir mon objectif numéro 1 et je ne vais pas démarrer un processus d'acceptation vis-à-vis de mon homosexualité, je vais démarrer un processus de refoulement. Donc les premiers temps, je vais tout faire pour rejeter en bloc et mon objectif, c'était de ne pas être homosexuel.
Y a une injonction à la virilité à la fois dans votre milieu social, familial, hein, parce que votre famille est d'origine maghrébine, et puis dans le sport, comme si c'était finalement par nature, comme si le foot était relié à l'hétérosexualité.
C'est exactement ça. C'est-à-dire que voilà, moi, j'ai évolué dans des milieux qui ont une définition de la masculinité qui est pour moi pas la bonne. Mmh. Et c'est important pour les gens de comprendre que orientation sexuelle et masculinité sont deux choses complètement différentes. Enfin, moi, à titre personnel, j'ai des amis qui sont hétéros et qui ont une part de féminité plus exprimée que la mienne. Mmh. Et pourtant, ils aiment les femmes. Mmh. Et je connais des homos qui sont très masculins et ça ne les empêche pas d'aimer les hommes. Et il faut bien décorréler les deux. Et j'ai l'impression que mes milieux, à savoir le monde arabo-musulman ou mon sport, le football, on nous a vendu un peu pendant de très longues années une homosexualité à visage unique. Mmh. C'est un homo, c'est forcément quelqu'un qui aime... les sacs à main, qui est très efféminé, et ça, il y en a, et il n'y a aucun problème. Mais ça peut aussi être autre chose. Ça peut aussi être un homosexuel qui va jouer au football ou faire de la boxe.
Mm-hmm. Votre père est décédé, vous étiez très jeune, vous étiez enfant, et on vous dit, maintenant que ton père est mort, c'est toi le lion de la famille. Cette virilité-là m'a permis de serrer les dents pendant 15 ans, alors paradoxalement, finalement. Et vous écrivez, quand je mentais à la terre entière, aujourd'hui, cette virilité fait encore partie de moi, je la chéris quand il s'agit d'encaisser des coups.
C'est ça, c'est-à-dire que voilà, moi je viens de milieu une fois de plus où être faible n'est pas bon. Il faut toujours montrer, donc moi derrière un sourire j'ai caché beaucoup de choses pendant très longtemps. Et voilà, j'ai 4 sœurs, ma mère, on est venu seul de Tunisie en France. Et donc du coup quand j'ai perdu mon père, j'étais le seul homme de la famille. Et donc tout de suite j'ai pris un rôle que je n'aurais pas forcément dû prendre parce que j'étais le plus jeune de ma famille. Mais je suis devenu en quelque sorte, voilà, comme disait mon oncle, tu es maintenant le lion de la famille.
Comment ça s'est passé le départ, puisque vous êtes très vite repéré pour vos dons au football, le départ pour le centre de formation du FC Toulouse et ensuite?
Moi je jouais à Aix-en-Provence, c'est une région, on va dire que c'est le premier ou le deuxième vivier en France pour détecter des talents au football. Et du coup, il y a des recruteurs qui viennent nous voir chaque week-end. Et puis voilà, j'ai eu la chance d'être sollicité par différents clubs. Ma mère, qui était très à cheval sur les études, m'a dit ils ont l'air d'avoir un très bon suivi au niveau scolaire. Donc, je préfère que tu ailles là-bas.
Donc vous vous retrouvez à Toulouse.
Et donc voilà, je me retrouve à 13-14 ans, déraciné de mon environnement, une ville qui est à 4 heures d'Aix-en-Provence, donc je ne pouvais pas y entrer les week-ends. Et donc dès 14 ans, je me retrouve à gagner mon premier salaire, pouvoir aider donc ma famille financièrement et démarrer cette vocation d'aspirant footballeur professionnel.
Cette vocation et en même temps ce sentiment d'être infiltré parmi les hétéros du foot, c'est ce que vous dites. Comment ça se manifestait, ça?
C'est ça, c'est-à-dire que donc, quand je dis infiltré, c'est que l'adolescence, qui est déjà une période assez compliquée sans la dimension sportive, c'est le moment où on se découvre, où les premiers désirs sexuels apparaissent. Et donc forcément, quand on est entouré que de jeunes garçons, tout le monde va se mettre à parler un peu de filles, etc. Et donc moi, comme j'étais pas particulièrement, ma part de féminité n'est pas particulièrement prononcée, tout le monde pensait que j'étais donc hétéro comme tout le monde. Et du coup, j'entendais tous ces discours... homophobe, sexiste, et j'en passe.
Dans les vestiaires, on ne parle pas de foot, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer?
Non, clairement pas. C'est vraiment un mythe que je tue un peu dans mon livre. Désolé pour ceux qui seront déçus.
Mais on ne refait pas le match dans les vestiaires?
Non, dans un vestiaire de foot, on parle principalement de femmes ou de meufs, comme disent les ados. Et c'est à qui aura chopé la plus belle ou à qui en aura chopé le plus. Et du coup, forcément, moi qui savais que je n'avais pas de désir envers les femmes, c'est là où je dis que j'étais un peu un agent, parce que du coup, je faisais un peu à l'image d'un acteur un rôle où je disais elle est trop belle, moi je suis sorti avec elle, et j'ai compris rapidement qu'il fallait que je me trouve des copines très très rapidement.
Ouais. Mais alors, puisque vous ne parlez pas, en quoi vous estimez que ça a nui à votre carrière pour passer joueur professionnel?
En fait, jouer un rôle tous les jours, mentir tous les jours, se mentir tous les jours, se haïr tous les jours, ça provoque un état d'épuisement et d'effondrement psychologique assez rapidement. Et moi, ce secret-là, je l'ai tenu pendant 10 ans sans me l'avouer à moi, parce que je voulais changer. Et donc, du coup, ce que j'explique dans mon livre, c'est que pour réussir dans un sport à haut niveau, il faut savoir se dépasser mentalement et psychologiquement. Et c'est impossible de faire cet exploit, de s'épanouir psychologiquement quand on est dans la détestation de soi constante et quand on joue un rôle constamment. C'est-à-dire que tous les jours, non seulement je m'entraînais 2 fois par jour, mais en plus de ça, à la cantine, au repos, ben là, je devais faire l'acteur et à parler de copines et à pas me tromper dans les prénoms et à faire toutes ces manigances. Et ça, c'est épuisant psychologiquement.
Vous êtes même retrouvé entraîné dans des bagarres contre des homosexuels.
C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, à côté de mon centre de formation, il y avait un bois. Et du coup, avec certains de mes coéquipiers, on s'est autorisé à former une brigade anti-gay, comme on l'appelait. Et sous prétexte d'aller protéger les plus jeunes du centre de formation, on est parti intimider, chasser, parfois violemment, avec quelques coups de pied, ces hommes qui se réunissaient, c'était un bois pour se rencontrer, en fait, en quelque sorte. Et c'est une blessure qui ne se refermera pas en moi, parce que j'ai chassé des personnes qui sont comme moi, mais moi, ça me permettait de mettre cette armure d'hétéro macho.
Est-ce qu'aujourd'hui, Wissam Belgacem, vous estimez qu'il est totalement impossible à un jeune footballeur de révéler son homosexualité, qu'il joue en centre de formation, qu'il soit footballeur professionnel ?
Alors, c'est pas impossible, quelqu'un peut le faire, mais ça va être un cauchemar monumental avec les conditions actuelles. Parce qu'il faut le vivre, hein, être dans un vestiaire entouré que de garçons, avec des discours, des égos, etc. Quand, en plus, on n'a pas forcément le soutien des instances dirigeantes de ce pays qui ne sont pas là à proclamer un discours d'inclusion et de tolérance. Je pense que les éducateurs aussi, les coachs, ne sont pas forcément formés à ce type de... C'est même pas une problématique, mais à ce type de différence-là. Ce serait très, très compliqué pour sa santé mentale, à la personne qui ferait ça. Et c'est un peu pourquoi je sors ce livre aussi, dans le but de faire changer le système.
De faire bouger les lignes et les mentalités, notamment du côté des coachs, des encadreurs, des gens qui s'occupent des clubs.
C'est ça, exactement. Il faut vraiment que les gens comprennent qu'une orientation sexuelle n'a aucun impact sur la performance sportive de quelqu'un.
Oui, parce que du côté du foot féminin, si on regarde, où on est aussi sur un sport non mixte, on a vu la gardienne des Bleus, Pauline Perrault-Magnin, qui s'affiche avec sa copine, on a vu Marinette Pichon, meilleure buteuse de l'histoire de l'équipe de France, qui a aussi fait son coming out, et pourtant, c'est aussi une discipline non mixte.
Oui, et je pense que c'est... je pense qu'une part de moi est convaincue que c'est une fois de plus lié à cette projection qu'on a de la masculinité. Et donc, du coup, dans les sports féminins, ça c'est beaucoup plus accepté, que ce soit le football, mais on peut aussi parler de tennis ou d'autres sports. Mais quand on en vient au football masculin, on rejette en bloc tout ce qui est lié à la féminité, comme si ce n'était pas possible d'être performant avec une part de féminité.
Vous demandez, Wissam Belgacem, que les insultes homophobes soient réprimées au même titre que les insultes racistes dans les stades. On en est très très loin, non ?
Mais bien sûr que je le demande et bien sûr qu'on en est très très loin.
Parce que ces insultes, c'est tout le temps.
C'est tout le temps. Et en fait, ça a été tellement banalisé que les gens ne se rendent même plus compte de la violence de ces insultes. Sauf que moi, qui étais ado et qui passais du coup toute mon adolescence dans des stades de foot, on y allait tous les week-ends. Tous les week-ends, on entend ces insultes-là. Et tous les week-ends, quand tu es un ado gay, tu réalises qu'en fait, on insulte ce que tu réalises que tu es. Et c'est d'une violence inouïe. C'est d'une violence inouïe. Comment se concentrer le lendemain matin à l'entraînement ?
Comment a réagi votre entourage, vos amis du foot, vos grands copains d'entraînement avec votre coming out, votre révélation ?
Alors là où je suis super content, c'est qu'il y en a plein qui ont extrêmement bien réagi. Et ça me montre que, voilà, une fois de plus, je pense que le problème de l'homophobie, c'est aussi beaucoup lié à de l'ignorance. Beaucoup de gens ont dit « Ah putain, je pensais pas qu'un homo pouvait jouer au foot, blablabla. » Et ça me montre aussi que, en fait, peut-être que les plus virulents, voilà, je pourrais pas donner un chiffre, mais c'est peut-être un pourcentage plus petit qu'on ne le pense. Et que du coup, il y a cette majorité silencieuse qui s'exprime pas forcément, mais qui, elle, n'est pas forcément homophobe.
Et parce que prise individuellement aussi ?
Voilà, parce que prise individuellement, ça passe beaucoup mieux.
Mais il y a quand même peu de joueurs stars qui prennent des positions courageuses dans ce sens.
Ouais, ça me déçoit beaucoup, ça. Ouais. Ça me déçoit beaucoup parce que Où est la justice dans le fait de discriminer quelqu'un pour quelque chose qu'il n'a pas choisi?
Ouais.
Non, mais vous imaginez l'injustice. Enfin, moi, on va venir me discriminer. Enfin, je suis né comme ça. C'est inacceptable. Et ça, on le comprend et on l'applique au racisme. Bon, c'est pas éradiqué entièrement, mais on n'irait pas insulter quelqu'un comme ça gratuitement pour sa couleur de peau parce qu'il ne l'a pas choisi. Pourquoi est-ce qu'on se le permet pour son orientation sexuelle?
Ouais. Et pourtant, beaucoup de joueurs sont sollicités par les journalistes par des questions sur ce sujet auxquelles ils ne veulent pas répondre, comme si ça leur faisait courir un danger pour leur propre carrière.
C'est exactement ça. Je pense qu'il y a je pense que c'est une combinaison de manque de connaissances sur le sujet et de manque de courage. Et ça, c'est grave parce que pour moi, ces joueurs phares sont des leaders d'opinion. Enfin, si, je sais pas moi, Mbappé se teint les cheveux en rose aujourd'hui, demain, je vais dans les rues de Paris, je vais voir plein de jeunes avec des cheveux roses. Donc, si ils étaient là à prendre le micro et à prôner un discours de tolérance, ça aiderait vachement toutes les prochaines générations.
C'est un message là que vous adressez à Kylian Mbappé?
À lui, entre autres, et à d'autres.
Il y a eu Antoine Griezmann qui a pris position pour la défense des droits des personnes LGBT. Il est lui-même hétérosexuel. Est-ce que ça donne plus de force ou pas, selon vous?
Alors, d'un point de vue courage, c'est moins courageux quand on est hétéro parce que le risque est moindre. Mais je remercie beaucoup Antoine Griezmann d'avoir fait ça parce qu'on a aussi besoin d'alliés. Enfin, devant ce combat et vu le niveau d'homophobie, tout est bon à prendre. Hein. Mais je pense que le gros point sur la table viendra quand un joueur homo fera son coming out en Ligue 1 ou dans un des 5 grands championnats européens.
C'est ça, il faut d'autres Wissam Belgacem. Vous estimez qu'à l'heure actuelle, plusieurs joueurs pro cachent leur homosexualité par obligation?
Oui, je le sais de par mon métier, je le sais et ça me fait beaucoup de peine pour eux. Et ce livre, il est aussi pour eux. Comme je dis, je suis un peu la voix de ceux qui payent cher le prix de leurs différences. Et chacun son cheminement, il ne faut pas les brusquer, mais de toute façon, on a combien d'histoires de gens qui, à 40-50 ans, quittent leur femme et disent « en fait, j'étais homo », et ces gens ne sont même pas forcément dans le football.
Oui, Wissam Belgacem, vous restez avec nous. On se retrouve chez 7 milliards de voisins dans quelques instants avec notre correspondant Yves-Laurent Goma à Libreville. Le Gabon a dépénalisé l'homosexualité, mais il reste du chemin à parcourir. Et surtout sur le reste du continent, on vous donne la parole aussi les auditeurs. Hein. Vous pouvez poster vos messages, vous pouvez aussi poser vos questions à l'ancien footballeur Wissam Belgacem au 33 7 64 45 51 41.
Penses-tu que je suis responsable? Penses-tu que tu sors du tas? Penses-tu mais pour qui tu te prends? Je crois que t'es juste insultant. Tiens pour une fois, reste sans voix et rassure-toi, je ne contamine pas. Puis assure-moi qu'avec ton petit minois, tout restera simple et courtois. Non, ne m'accuse pas, me descends pas de pédéraste jusqu'au bout des doigts. Si tu veux crier que tu es plus fort que tout, sans rouge vernis et fard à joues. Tu tentes de me tuer, de tes remarques, de me vider à coups de hache. Mais jeune homme, sais-tu seulement que je me maquille pour te rentrer dedans? Ça y est, ça te glace le sang. Que tu sois gars ne soit qu'un minime détail. Que tu sois charme tout presque comme une dame. Non, donne pas ton âme au diable. Et le pire, fais attention garçon. Faire joujou dans ton petit pantalon peut me provoquer de fines réactions. Allez, tourne-toi, dégage, que je tape le fond. Je suis complètement normal. Complètement banal. Je suis complètement normal. Je suis con, tellement malade. Je suis complètement normal. Complètement banal. Je suis complètement normal. Je suis con, tellement malade. Oups, pardon, j'ai eu tort. D'habitude, je mets des gants. J'ai laissé mes manières dehors. Pour un mec comme moi, c'est étonnant. Car oui, bon, je t'ai pas tout dit. Bienvenue là où tu peux faire ta comédie. Surtout jouer à faire ce que tu as envie. Attends de voir si ce soir tu me suis. Sinon, insulte-moi et descends-moi. De contre-nature ou la belle injure. Cette fois, ça te coince, ça te stresse. Allez, bouge et serre les fesses. Puis ne reviens plus voir avec tes gros sabots. Pour semer le fiasco en venant ici. En jetant des mots sans parcimonie. Des grands mots qui font froid dans le dos. Car je suis complètement normal. Complètement banal. Je suis complètement normal. Je suis con, tellement malade. Je suis complètement normal. Complètement banal. Je suis complètement normal. Je suis con, tellement malade. Si tu que certains se font des nœuds de secours, d'autres fabriquent des cabanes de clous. Certains se cachent à travers la foule.
les d'autres avis, bien le refoule. Alors si toi tu te sens beaucoup plus sain dans ta petite vie, ton petit train-train, saute-les toutes et trace ta route. Ne t'en fais pas, bel assassin. Je suis complètement normal, complètement banal, con, tellement malade.
Très belle chanson d'Edith Preto, Normal, le rappeur français de 28 ans qui sort son, qui a sorti son deuxième album en mars dernier. On est avec vous, Wissem Belgacem, ancien footballeur. Vous publiez un livre, Adieu ma honte, aux éditions Fayard, où vous révélez votre homosexualité en cette journée mondiale de lutte contre l'homophobie. On donne la parole à notre correspondant Yves-Laurent Goma à Libreville, au Gabon. Bonjour Yves-Laurent.
Bonjour Emmanuel.
Ça fait presque un an que le Gabon a dépénalisé l'homosexualité. Qu'est-ce qui a changé ?
Je crois que ce qui a changé dans le débat pour ou contre l'homosexualité qui a surgi au Gabon est vite retombé quelques semaines après l'adoption expéditive par les deux chambres du Parlement, Assemblée nationale et Sénat, de la loi dépénalisant l'homosexualité, suivie de sa promulgation par le président de la République. Les Gabonais, à mon avis, sont très rapidement passés à autre chose. Télésphore Obamungomo, qui préside l'unique association de
Ah, j'ai l'impression que la ligne a coupé. Nous sommes en liaison Internet avec Yves-Laurent Goma via WhatsApp. Donc ça fait presque un an que le Gabon a dépénalisé l'homosexualité. C'était à la début juillet 2020 et on est en train d'essayer de le rappeler pour essayer de comprendre aussi politiquement quel est l'enjeu. Est-ce qu'on a Yves-Laurent Goma ? Oui, on vous a retrouvé Yves-Laurent.
J'ai activé le mode avion.
D'accord. Non, c'est bon, allez-y, vous êtes en direct.
D'accord.
Allez-y Yves-Laurent.
Alors donc je disais que Télésphore Obamungomo, qui préside l'unique association de défense des droits des homosexuels, n'a pas signalé un traitement dégradant ou un cas d'homophobie dans le pays. Télésphore, lui-même, est journaliste très actif. Par contre, je signale que les premières victimes de cette loi ont été les députés et sénateurs du Parti démocratique gabonais, le PDG, c'est le parti au pouvoir. Ce parti majoritaire dans les deux chambres du Parlement avait traduit au Conseil des disciplines tous les députés et sénateurs qui ont annoncé via les réseaux sociaux n'avoir pas voté en faveur de ce texte pour des convictions personnelles. Ils ont reçu un blâme avec inscription au dossier.
Que prévoit exactement la nouvelle loi au sujet de l'homosexualité qui a été votée il y a moins d'un an et qui, selon ses opposants, est loin de refléter l'opinion de la majorité des Gabonais ?
Ouais, en fait, en 2018, le code pénal gabonais avait été amendé. Et l'un des amendements concernait l'introduction d'une disposition répressive contre l'homosexualité. En juin dernier, l'alinéa 5 de l'article 402 du code pénal gabonais qui reprimait l'homosexualité a donc été retiré. Beaucoup de citoyens ont estimé que le retrait de cette disposition était une légalisation de l'homosexualité dans le pays. Ce n'est pas exactement cela, ont expliqué les députés.
Yves-Laurent Goma, théoriquement, est-ce que les homosexuels ont par exemple le droit de se marier au Gabon ?
Non, pas pour le moment. Parce que l'homosexualité n'est pas légalisée dans le pays. Ce qui est interdit, c'est de sanctionner une personne sous la base de son orientation sexuelle. En fait, le Gabon, à travers la modification du code pénal l'année dernière, est revenu un peu dans la situation qui prévalait avant 2018. L'homosexualité n'est donc ni interdit ni autorisée. Peut-être que la modification du code civil en cours permettra de faire évoluer la situation, car au Gabon, la famille, c'est encore papa, maman et leurs enfants.
Merci à vous Yves-Laurent Goma en direct de Libreville au Gabon. Wissem Belgacem, ancien footballeur, vous racontez dans votre livre « Adieu ma honte » dans lequel vous révélez votre homosexualité, à quel point finalement cette orientation sexuelle a anéanti réellement votre carrière de footballeur. Vous l'expliquez bien, non pas parce que vous aviez révélé cette orientation à l'époque où vous étiez footballeur, hein, parce que là de toute façon, vous le dites, ça aurait été totalement impossible, mais parce que psychiquement, cette identité était impossible à vivre avec les insultes au quotidien dans la culture du foot. Comment vous voyez les évolutions des sociétés qui nous entourent? Il y a quand même il y a des espoirs, il y a plus de 80 pays qui disposent de lois qui protègent contre la discrimination au travail fondée sur l'orientation sexuelle. En France, c'est le cas. Néanmoins, effectivement, on a l'impression que le foot passe entre les mailles du filet. Mais il y a 20 ans, il n'y avait que 15 pays qui avaient des lois protégeant des discriminations.
Non, moi je pense qu'il y a une évolution. Il y a une évolution, c'est bien qu'il y ait des lois qui dépénalisent le fait d'être homo dans tel ou tel pays. Maintenant, je pense que le quotidien, c'est différent. C'est-à-dire qu'au-delà des textes de loi qu'il faut changer, maintenant, il y a aussi l'environnement, la culture. Je pense qu'il faut des programmes de sensibilisation, des programmes de formation, d'éducation pour expliquer aux populations de différents pays que l'homosexualité n'est en rien un problème, qu'on est ainsi, qu'il faut juste l'accepter, vivre, et il n'y a pas de souci, quoi.
Ouais. Alors, on a reçu des messages, celui d'Achille, qui est à Douala, au Cameroun, qui nous dit: en Afrique, la plupart des pays pénalisent la communauté LGBT, les populations sont mal informées à ce sujet, exactement ce que vous dites, Wissam Belgacem. Cette semaine, un jeune trans a été condamné à 5 ans de prison, je précise qu'il s'agit de Shakiro, qui est très connu sur les réseaux sociaux, et on rappelle qu'au Cameroun, c'est l'acte homosexuel qui constitue un crime passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison. On a aussi un message de Stéphane, qui est à Grenoble, qui est gay, qui est originaire également du Cameroun, et qui nous dit: le fait de criminaliser les gays en Afrique et que nous ne soyons pas reconnus a un impact énorme sur notre santé mentale. Nous sommes battus, agressés, nous n'osons pas aller voir la police. Ça m'est arrivé ici, en France. Je n'ai pas osé, alors que je sais que la police française me respecterait, mais j'ai intégré cette méfiance de la police. L'homosexualité considérée comme un crime nous empêche de nous projeter vers l'avenir. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je comprends exactement ce que cet auditeur a dit, parce que moi-même je suis passé par là où quand on n'entend que des discours négatifs sur qui on est, ça a un impact phénoménal sur sa santé mentale. Vous savez, on n'a pas besoin de recevoir un coup pour être blessé. Et ce que j'explique vers la fin de mon livre, c'est que j'ai entendu des discours homophobes une grande partie de ma vie. Et ça va me prendre peut-être tout autant de temps pour déconstruire toute cette homophobie que j'avais moi-même intériorisée, toute cette détestation que j'avais. Enfin, je me levais le matin, je n'aimais pas qui j'étais. Et comment s'épanouir dans une vie comme ça, c'est tellement difficile. Parce que même sans ça, la vie est déjà difficile de base.
Oui.
Mais si ensuite, si en plus de ça, on va ajouter cette difficulté-là, c'est très très compliqué très rapidement.
Mais finalement, c'est un combat qui vous est tombé dessus presque malgré vous.
Oui, je pense. Et je pense qu'il n'y a pas forcément de hasard. Et peut-être qu'il fallait que je la ressente à ce niveau-là, cette homophobie, pour en faire maintenant mon combat aujourd'hui. Et j'ai.
Mais c'est pas votre métier, hein, je le précise.
Non,
aujourd'hui,
c'est...
vous accompagnez d'anciens des footballeurs qui veulent se reconvertir. Ça n'est pas votre métier.
Non, ça n'est pas mon métier. Néanmoins, ça m'empêche pas de défendre ce combat quand j'en ai l'occasion à travers ce livre. Parce que voilà, je suis arrivé au stade de ma vie où je comprends qu'en fait je n'avais rien fait de mal, que je suis né comme ça, que j'ai pas à changer, et que tout va bien comme ça.
Vous l'écrivez très simplement et très clairement en même temps dans votre livre, Wissam Belgacem: mon désir pour les garçons est apparu naturellement, par étapes. Il était d'autant plus sincère qu'à l'époque, dans mon milieu, c'était la pire chose qui puisse arriver à quelqu'un en termes d'orientation sexuelle. Dès l'école primaire, j'ai ressenti une attirance sur laquelle je n'avais aucun pouvoir, pas plus que sur ma couleur de peau ou mon origine sociale. Est-ce que c'est ça le plus compliqué à faire comprendre à la société, aux sociétés, qu'il ne s'agit pas d'un choix, mais d'un état de fait?
Ben oui, je pense que c'est la première étape, parce que je pense que les médias ont véhiculé ce message en laissant différentes personnes prendre la parole sur des grandes chaînes de télé en France et ailleurs, où on nous a expliqué pendant longtemps qu'être homo est un choix. Mais je trouve ça d'une incohérence, c'est juste incroyable. Enfin, quand on fait la liste...
Les médias n'étaient que le reflet de la société, hein, en même temps.
Oui, aussi, mais en même temps, combien de temps est-ce qu'on a laissé de parole à ces personnes-là qui ont véhiculé ce type de message-là aussi. Et ce n'est pas ce dont la société avait besoin d'entendre, à mon sens. Je pense que c'était très, très, très dommageable.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment que la bienveillance des médias à l'égard de cette parole d'ouverture, d'écoute, de tolérance, est-ce que vous avez le sentiment que finalement, ça ne crée pas une sorte de schizophrénie dans la société ? Parce que quand on va sur Twitter, ça ne se passe pas vraiment comme ça, finalement.
Je suis entièrement d'accord avec vous. Moi, ne serait-ce qu'à titre personnel, je vois que mon livre est très bien reçu dans les médias, etc., que... Voilà, les gens ont l'air d'être prêts pour enfin parler de ce sujet et du coup pour porter l'homophobie au même niveau que les autres discriminations sans les hiérarchiser, parce que comme je le dis toujours, soit on lutte contre toutes les discriminations, soit aucune, mais c'est pas le deux poids deux mesures et ce qui nous arrange. Mais maintenant, il y a aussi une réalité. Voilà, l'exemple que je pourrais prendre, c'est ce week-end, ce qui s'est passé sur les stades de foot. Donc, il y a une initiative qui a été mise en place par la LFP, où on a floqué les maillots de football avec les couleurs arc-en-ciel, qui représentent le drapeau LGBT. Et c'est une super initiative. Maintenant, voilà, je suis parti voir un peu les différents commentaires qu'il y avait sous certaines de ces images. Et mon Dieu, l'horreur! Mon Dieu, l'horreur, c'est beaucoup plus de 50%, 60%, je n'aurai pas un chiffre, mais des commentaires ultra homophobes, ultra négatifs. Donc oui, on pourrait penser en écoutant le relais de certains médias que les choses avancent, etc. Mais il faut bien, voilà, une fois de plus, penser qu'à la réalité du terrain. Et ça, de la même manière que ça a mis du temps pour que ces gens deviennent comme ça, ça mettra du temps à déconstruire l'homophobie des mentalités.
Ouais. Un message de Julio qui est à Melun, donc en région parisienne, qui est originaire de République démocratique du Congo. Il nous dit « Les parents africains doivent accepter l'homosexualité de leurs enfants comme un fait, car ils ne choisissent pas d'être homosexuels. Il faut déconstruire cette idée que l'homosexualité est un sortilège ou une maladie. » Aujourd'hui, à votre avis, Wissem Belgacem, alors comment faire bouger les lignes dans le foot et ailleurs ? Est-ce qu'il y a des gens que vous avez vus autour de vous, dans votre milieu, qui ont des évolutions positives, qui vous donnent de l'espoir ?
Oui, entièrement. J'espère que je ne serai pas le seul cette année à sortir un livre de ce type. Je pense que ça passe par partager des récits de vie, des témoignages. C'était tellement tabou d'être homo dans le foot ou ailleurs que personne n'osait parler. Et là, j'espère que voilà, en portant une parole courageuse, c'est une première étape. Et ensuite, moi, je suis foncièrement convaincu que tout passe par l'éducation. Il faut éduquer les gens, faire comprendre qu'être homo, non, c'est pas une maladie. J'ai fait des études supérieures, il n'y a aucun problème. Qu'on peut jouer au football et être homo, et être un défenseur rugueux et mettre un tacle appuyé, il n'y a pas de problème. Et puis, il faut délier les langues, il faut que les gens se mettent à oser... À dire qui ils sont. Après, voilà, j'encourage personne activement à faire son coming out. Hein, c'est chacun son cheminement, si les conditions sont réunies, parce que je sais que ça peut être très dangereux et compliqué de faire son coming out. Mais pour ceux qui le peuvent, les homos qui le peuvent, je pense qu'il est temps de prendre la parole. Et tous ces hétéros qui ne sont pas forcément homophobes, mais c'est ce que j'appelais tout à l'heure la majorité silencieuse, il est temps aussi de dire, laissez ces personnes tranquilles aussi.
Il est temps de dire, le problème, c'est l'homophobie. Pas l'homosexualité ou les LGBT. Le problème, c'est l'homophobie et la haine.
Exactement. Et il faut que les personnes comprennent qu'accepter l'homosexualité ne va pas provoquer d'un coup une démultiplication des homos sur Terre. Il n'y en aura pas plus. Il y aura ce qu'il y aura. Et puis, c'est la nature et c'est comme ça. Mais il n'y a pas un projet de grande invasion des homos sur Terre, non.
Comment ça s'est passé ? Comment ça se passe aujourd'hui pour votre famille, Wissem Belgacem ? Puisqu'on a commencé cette émission avec Omar Didi qui nous disait, à l'occasion de cette grande conférence mondiale de lutte contre l'homophobie et de l'inclusion des personnes LGBTI, que finalement, contrairement au racisme, il y avait vraiment une double peine pour ces personnes, puisqu'il y avait une exclusion bien sûr dans la société, dans le monde professionnel, mais aussi une exclusion dans la famille.
C'est ça. C'est-à-dire que pendant très longtemps, en fait, voilà, moi, j'ai vécu de l'homophobie dans mon sport, dans ma cité, et je pouvais même pas avoir le réconfort de venir en parler auprès de ma famille, parce que je sentais qu'il y avait pas une ouverture d'esprit sur le sujet.
Et voilà. Que c'était même pas pensable, sous-entendu, ou que votre famille avait des doutes sur vos propres doutes et persécutions personnelles ?
Non, je pense que alors je pense qu'il faut dissocier mes sœurs de mes parents qui sont eux nés en Afrique et qui sont venus, donc je pense que voilà de facto il y avait une plus grande ouverture d'esprit chez mes sœurs, mais je pense que pour ma mère ça relevait de l'impensable parce que je rentrais dans aucune des cases qui selon la société sont les cases d'un homo, c'est-à-dire que j'aime pas la mode, j'aime pas les grandes icônes qui sont partagées par la communauté gay comme Mylène Farmer par exemple, même si j'ai rien contre ses chansons bien évidemment, c'est juste que je partage pas ce goût musical là, et je jouais au foot et j'étais le premier à me battre dehors, et j'étais je suis quand même, mon prénom en arabe veut dire honneur, donc pour ma mère j'étais le symbole, j'étais sa fierté quoi, pour elle ça relevait de l'impensable de lui révéler que j'étais homo, et donc quand je lui dis ça a été un traumatisme très grand pour elle, c'est abandonner toutes les projections qu'elle avait pour moi, ses rêves, etc. Puis comme elle m'a dit, c'est un nouveau Wissem que j'ai devant moi. Alors qu'en fait, non, c'est le Wissem qui a toujours été là et je suis le même.
Est-ce que vous avez abandonné le foot réellement à cause de ça ?
Ah oui, en fait, je suis arrivé à un âge, j'avais 20 ans, je jouais aux États-Unis à l'époque. Je sortais de cette expérience au Colorado Rapids de Denver. Et je suis parti du coup réfléchir un peu à ce que je voulais faire de ma vie à New York. Et je me suis dit, bon, voilà, t'es dans le foot maintenant depuis 10-12 ans. T'as 20 ans, une carrière de footballeur, c'est jusqu'à 35 ans. Je sais pas jusqu'où je serais allé. Hein. Mais je me disais, est-ce que tu te vois romantir comme ça pendant 10-15 ans ? La réponse était non.
Ça veut dire que le foot, que ce soit aux États-Unis, en France, en Europe, se prive de talents comme le vôtre ?
Exactement. Après, je ne sais pas si c'est une grosse perte pour moi à titre personnel, hein, on ne saura jamais. Mais moi, ce qui me rend furieux, c'est de me dire qu'aujourd'hui, tous les jours, il y a des enfants qui naissent, qui seront peut-être extrêmement talentueux au football et qui vont s'écarter de ce sport, qui ne joueront jamais parce qu'ils vont réaliser qu'ils sont gays, ils vont réaliser que c'est un milieu super hostile pour les homos. Et donc, naturellement, ils vont aller faire autre chose.
Aux États-Unis, vous avez senti une différence ou pas ?
Non. Et même, non, dans un vestiaire, c'était pareil. En plus de l'homophobie, on a ajouté l'islamophobie là-bas, donc c'était autre chose.
Ouais. Toujours une double peine, finalement.
C'est ça, j'aime le cumul.
Aujourd'hui, est-ce que vous avez un message à faire passer à ceux qui nous écoutent, à des jeunes qui vivent sans pouvoir révéler qui ils sont, exactement ce que vous nous avez décrit finalement, et qui sont pénalisés dans leur épanouissement, que ce soit un épanouissement personnel, professionnel, à cause de ça?
Moi, je pense que j'ai deux messages à faire passer. Le premier, c'est que je sais qu'en France, voilà, beaucoup de personnes issues de l'immigration africaine vont se plaindre qu'il peut potentiellement avoir du racisme. Et donc, du coup, c'est parce qu'on les discrimine pour leur couleur de peau. Et le même processus devrait être appliqué aux homos. On ne choisit pas son homosexualité. Donc, pourquoi aller discriminer des personnes qui n'ont pas choisi ? Ça, c'est le premier message. Et le deuxième message, c'est un gros message d'amour et de bienveillance envers tous ces homos à travers la Terre qui, malheureusement, vivent dans la souffrance, dans la douleur, et j'ai envie de leur dire, ne changez rien, vous êtes beau tel que vous êtes, et c'est les gens autour de vous qui ont tort. Vous n'avez pas à changer, donc aimez-vous.
Vous restez un amoureux inconditionnel du foot, malgré tout.
À fond.
Merci beaucoup à vous, Wissem Belgacem. Vous publiez Adieu ma honte aux éditions Fayard. Merci d'avoir été en direct.
Merci
chez
à
7
vous.
Milliards de voisins. Demain, 7 milliards de voisins, on parlera des nouveaux modes de consommation et comment ça change les conditions de travail de ceux qui servent le consommateur, les livreurs et compagnie, bien sûr. Et vous pourrez réagir au 33 7 64 45 51 41. On se quitte avec un message d'espoir à Louise Sauvage. Merci à vous, Wissem Belgacem.
Merci.
Cette barge trafiquée dans son regard, sa fille anormale et sa fille au doigt
défigurée là.
Qui est ce bâtard tendant vers la borderline du raniste fab qui suce sa proie?
Décapitez-le.
Offrez sa tête au roi. Faites-en ce que vous voulez. Vous ne la connaissez pas. La reine veut la dévorer. Offrez sa tête au roi. Faites-en ce que vous voulez. Vous ne le connaissez pas. Lui le prince veut l'épouser. On se cachait. Maintenant on s'élève. C'est pas vacher sur les clichés qu'on changera les règles. Maintenant on riposte. C'est pas en restant sans rien dire qu'on changera la donne. Les PD sont beaux. J'ai osé rêver que tout le monde enfin le voyait. Oh mon oui, l'arc-en-ciel brandit des superbes vasilis. Oh
puis quand le bonheur des autres peut amoindrir le tien, tu dis quoi? Je ne comprends pas. Reprends ton souffle et tes pancartes et va marcher plus loin. Tu veux nous orienter, c'est gentil de proposer sans vouloir t'offenser. Va te faire enculer, tu veux nous orienter, c'est gentil d'insister sans vouloir te brusquer. Va te faire cunilinguer. Les PD sont beaux, j'ai osé rêver que tout le monde enfin le voyait.
Aloïs Sauvage chez 7 milliards de voisins sur RFI. C'est l'heure de se quitter. Dans quelques instants, ce sera le journal. Merci à l'équipe qui prépare cette émission. Juliette Brault, Delphine de Dianouz, Romain Dubrac, Didier Cherouz. Bien sûr, vous réécoutez toutes nos émissions en podcast sur les plateformes de téléchargement. Et puis, j'en profite aussi pour vous signaler que vous nous retrouvez sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter. Allez faire un tour sur notre compte Instagram 7 milliards RFI. On a posté des conseils aux jeunes en recherche d'emploi à la suite de notre émission qui avait connu un gros succès, beaucoup d'impels au standard. Et donc voilà, on a résumé les principaux conseils pour rédiger son CV, pour passer des entretiens d'embauche. Notamment, voilà, je vous dis à demain. On se retrouve comme chaque jour de la semaine sur RFI.
Tout le monde est voisin.
Il y a quelque chose comme l'idée de créer des passerelles entre les différentes cultures, non ?
Bonjour Emmanuel, bonjour les auditeurs.
On se sent tout petit finalement.
Très proche en même temps. Hein.
Bonjour Emmanuel.
La planète est un immense village, alors c'est bien de savoir aussi qu'il y a des gens qui sont proches de nous.
Bonjour à vous, bonjour à tous les 7 milliards de mes voisins qui se trouvent sur la planète Terre.
C'est 7 milliards de destins, 7 milliards d'histoires d'amour.
Ça m'aide, moi aussi, comme beaucoup d'autres, à pénétrer le monde.
C'est 7 milliards de déceptions, c'est 7 milliards de joies, de pleurs. Oh
oui.
C'est
l'aventure.
Oui, bonjour.
C'est une extension de la famille dans un sens où on les a au quotidien à côté de soi et c'est bien de les connaître, d'échanger avec eux.
C'est la planète, non ? On est 7 milliards sur Terre, c'est ça ? Je dis pas de bêtises ?
Oui, 7 milliards.
Autour de la